France Inter.
Bienvenue dans La Régulière, l'émission de toutes les cultures. Aujourd'hui, on reçoit un invité, Boombas, dont la musique a littéralement façonné une époque. Et la moitié du duo Cassius, ce nom qui, dès la fin des années 90, a emmené la French Touch dans le monde entier. De 1999, je le dis en français, à I Love You So, de Feeling For You à Toup Toup, Cassius a incarné une idée du son français, chic, groovy, électronique et profondément humain. Et c'est justement d'humanité qu'il est question aujourd'hui. Boombas est avec nous pour présenter Denson, un morceau inédit enregistré en 2018. Sur lequel on entend la voix de Philippe Zdar, son acolyte aujourd'hui disparu. Un titre posthume bouleversant qui marque à la fois la fin et l'éternité du duo, parce que Cassius est aussi une histoire d'amitié, de passion, de club, de machine, de nuit et de son. Et pour célébrer cette histoire, Cassius va rejouer en live le 10 avril au Webster Hall de New York, le 22 avril à l'Olympia à Paris et le 25 avril au Coco à Londres. Trois dates exceptionnelles pour continuer de danser parce qu'on en a besoin. On est avec Boombas pendant une heure à La Régulière.
France Inter. Régulière, Mehdi Maizi.
Boombas, comment ça va?
Bah ça va bien, Mehdi, merci, merci beaucoup.
Bah avec grand plaisir.
Et toi?
Bah moi je vais très bien. Bon. Je suis très bien.
De nos
jours,
c'est pas courant.
Exact, c'est vrai, c'est vrai. Je suis content de te recevoir. Je l'ai dit parce qu'il y a cette actualité-là, un nouveau morceau qu'on va écouter après. Oui. Et puis des dates, mais des dates qui sont pas sous le nom de Boombas, sous le nom de Cassius. Qu'est-ce qui a fait justement que toi tu accepte aujourd'hui même, revendique aussi peut-être le fait de reprendre l'étendard et de l'assumer sur des dates.
Bah en fait c'est il y a un moment évidemment c'était quasiment impossible, ouais. Il y a 3-4 ans l'idée même je pouvais même pas l'aborder et puis en fait quand on a tourné en 2023-2024 avec Étienne de Crécy et oui. DJ Falcon en back to back à trois DJ. Et c'est sur un voyage, notamment aux États-Unis, en fait, où après le set, je tombe sur des, que je veux vraiment dire des mots, entre, j'ai pas vraiment l'idée de l'âge, mais entre 20 et 25 ans, et qui me parle de la French Touch, mais notamment de Cassius, avec les yeux brillants, en fait, et pour eux, il y avait une. En plus, on a dû aller jouer, je pense, deux fois dans notre vie en Californie avec Philippe. C'est pas comme si on avait écumé le pays et qu'on avait un public là-bas. Et donc, je me suis retrouvé presque 25 ans après le premier album avec des mômes qui me parlaient de ça. Et après, c'était un peu partout pareil. Enfin, qui me parlaient de ça, qui me parlaient de la musique et de l'influence qu'on avait pu avoir, mais vraiment en parlant de Philippe et moi. Et je me suis dit, tiens, c'est. J'avais pas. Enfin, j'avais
pas. Tu te rendais pas compte?
Non, je me rendais pas compte, en fait. Et donc d'ailleurs, on s'est jamais rendu compte de l'importance entre guillemets que ça a pu avoir sur des gens. Et donc en retournant et en rejouant comme ça, j'ai réalisé l'influence qu'on avait. Et ça m'a rappelé moi mes débuts en fait, où aussi j'avais énormément de gens qui m'inspiraient, notamment là à l'époque il y avait pas d'électronique, c'était plus des mecs de funk, etc., etc. Et que je regardais avec les mêmes yeux que ceux qui me regardaient quand j'avais la chance de pouvoir les approcher. Et je me suis dit bon là, il faut peut-être faire quelque chose. En fait, ça a mis un peu de temps, mais au bout d'un moment est arrivée l'idée de célébrer en fait notre aventure et notre voyage musical avec Philippe, plutôt que de rester sur cette fin qui avait été un peu trop dark.
Bien sûr. Et puis précipité, évidemment.
Et précipité et puis on n'a pas eu le choix. C'est pas nous qui avions décidé d'arrêter. Ouais, c'est la vie qui a fait que les choses s'arrêtaient. Et je me suis dit, bon, ça, c'est pas dans ma personnalité. Je veux bien courber les chines, je veux prendre la tronche le temps qu'il faut, mais à un moment ou à un autre, il faut. Moi, j'aime bien me relever. Et là, il fallait faire un truc. Et donc, c'est la première idée que j'ai eue, ça a été de reprendre le DJ sous le nom de Cassius. Oui. Parce que, bon, j'avais pas envie de faire de musique sous ce nom-là, ni rien, mais déjà, voilà. Donc là, j'ai passé l'année 2024 derrière des platines à faire ça. Et assez rapidement, avec par goût du défi, parce qu'on avait vraiment ça avec Philippe, c'était l'idée de toujours se mettre des défis pour essayer de faire un pas en avant, en fait, c'est ça qui est intéressant. Je me suis dit, mais en fait, il faudrait que je fasse un truc qu'on avait même carrément, qu'on avait un peu planté la dernière fois avec Ibifornia.
Qui votre dernier album.
Qui était l'avant-dernier
album.
De 2016, on avait fait un live dans un volcan
tout à fait,
et tout,
ouais.
C'était un merdier sans nom. Enfin, qui aujourd'hui me fait des barres de rire, mais sur le moment c'est compliqué. Je me suis dit, il faudrait célébrer. En fait, j'avais besoin de. Je ne sais pas si c'est clôturé, mais j'avais besoin de célébrer notre aventure et de me mettre en danger. Et je me suis dit, vas-y, viens, j'en ai parlé à mon entourage. J'ai dit, si on faisait une sorte de tournée, concert, tout le monde a dit, ouais, vas-y, banco. Puis là, voilà, j'ai ma lobine depuis deux jours, là, c'est annoncé, je suis là, je me dis, qu'est-ce que j'ai fait?
Alors, mais... tu parles du premier album, qui date des années 90, mais effectivement, il y a aussi des morceaux qui ont traversé les époques, mais aussi des morceaux plus récents. C'est peut-être ça qui fait aussi que des plus jeunes connaissent Cassius, et je pense notamment à un morceau qui a fait plusieurs fois le tour du monde, « I Love You So ». Finalement, ce morceau, c'est pas aussi une des raisons qui fait que Cassius a une durée de vie presque aussi plus longue que d'autres groupes nés dans les années 90, parce que, pour le coup, là, on n'est pas dans la French Touch telle qu'on l'imagine dans les années 90, c'est vraiment, c'est une autre époque. On est en plus sur un clip qui est sorti, enfin, qui était extrêmement viral, avec les bouches, etc. Donc c'était vraiment quelque chose purement dans l'époque, dans son époque, des années 2010, signé chez Headbanger, qui sortait en plus d'années extrêmement fast, avec Justice et j'en passe. J'ai l'impression que c'est ce morceau-là aussi qui est, je sais pas si tu l'aimes plus que les autres, mais en tout cas, qui est quand même très important dans le fait que Cassius soit aussi, encore aujourd'hui, pertinent pour des jeunes générations.
Ouais, je suis tout à fait... Enfin, de ce que je vois, ouais. Je pense que t'as raison. C'est pas personne vient de parler du premier morceau, bien qu'il le découvre peut-être après, mais bien celui-là, sûr. En plus, a été... Ça nous ressemble vraiment, et ça ressemble à votre carrière, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à été prémédité, c'est que de l'accident.
Ouais.
Du début à la fin, au clip, au synchro qu'il y a eu, à la signature avec Pedro chez Headbanger, tout s'est fait dans notre bordel.
Le sample aussi commun. Par Kanye et Jay-Z sur la boîte de Trône qui a repris ça.
Qui a repris ça. Il y a eu, en fait, ce morceau est arrivé comme un. Parce que c'était un moment, en plus, on était un peu au creux des vagues. On a connu, en fait, beaucoup de vagues. En fait, on surfe, enfin, c'est une drôle d'image, mais en fait, il y a un moment, il y a ceux qui ont des carrières qui font boum, comme ça, jusqu'au bout. Genre les Daft qui ont fait leur chemin sur 20 piges jusqu'en haut de la montagne, et nous on a passé notre temps à monter, descendre, décoller, rebondir. C'est notre karma et j'adore ça. Et
tu le racontes très bien dans ton livre d'ailleurs. Tout ça est bien raconté dans le livre que tu as sorti.
Je le raconte dedans.
Non, mais oui, complètement. Et ça, c'est très bien raconté, le fait que Cassius n'a pas eu une trajectoire homogène, mais qu'il y a eu effectivement des hauts, des moments un peu plus compliqués, entre guillemets.
Exactement.
Mais c'est ça votre histoire.
C'est notre histoire. Je pense que ça vient de nos deux personnalités qui fait qu'on se respectait l'un et l'autre. Et que quand il y en a un qui avait envie de faire bleu, ben on le laissait faire bleu, l'autre il laissait faire l'autre rouge. Donc ça prenait du temps. On n'était pas vraiment des carriéristes. Enfin, je dis pas que les autres sont des carriéristes, mais je veux dire, on n'était pas carriéristes, même musicalement, on changeait de costard à chaque chanson, etc. C'était un peu compliqué. Mais pour répondre, par rapport à ce que tu dis, ouais, je pense que c'est I Love You So qui fait qu'on tient dans le temps. Quand je l'écoute là, c'est une sorte d'ovni qu'on était presque les seuls à pouvoir jouer à 3 du mat dans un club. Tu vois, c'est pas évident, même s'il est à 126, c'est un slow. Donc, le fait qu'on l'incarne, ça marchait. Et encore maintenant, je le joue tout le temps, je finis les sets dessus, ça, et c'est vraiment, je reçois une dose de...
C'est ton morceau parfait pour finir un set, ça ?
Ouais.
Ouais.
Ouais, bah ouais, pour nous, enfin pour moi c'est bien, c'est une bonne clôture. Et je pense pas qu'on ait fait mieux après. Enfin, on a fait plein de musique super, mais en tout cas, celui-là, il a ce truc... Parce que c'est bien de faire de la musique bon, pour sa collection de disques et pour chez soi, mais c'est que moi j'ai toujours bien aimé que la musique qu'on fasse, elle marche.
Oui, t'avais cette volonté.
Je parle pas d'être numéro 1 dans le monde, ça on en rêvait, mais bon, on a tout fait pour que ça n'arrive pas. mais au moins que ça plaise à notre base et à ceux et celles qui font qu'on a tenu pour un moment.
Tu voulais pas être un artiste de niche ?
Non, en fait, on rêvait de grands succès, mais en restant peinard à la maison. Donc ça ne marche pas.
Oui. Non, mais c'est vrai. Mais vous y êtes un peu arrivé. Enfin, restant peinard, je ne sais pas.
Bien sûr. Il y a quand même des morceaux. Belle vie, moi, j'en change rien.
Et puis, il y a des morceaux quand même qu'on fait le tour du monde sans que vous soyez forcément des superstars. Mais il y a quand même des morceaux chez vous qui ont ce potentiel-là.
Et là, je me rends compte aujourd'hui, puisque maintenant, je représente une sorte de statue du passé, quoi. Enfin, avec Cassius. Et la cote d'amour et les gens nous parlent en fait comme si on avait cartonné, vendu 600 millions d'albums, eu 45 Grammy machin, ce qui n'est jamais le cas. Donc c'est hyper beau parce que finalement c'était vraiment ça qui nous. On a vraiment fait la musique pour ça en fait, pour exister dans notre univers, manger avec ça. Bon, c'est vraiment ce qui nous aurait été une galère. Philippe pouvait avoir son studio, j'avais ma vie, donc on a assez réussi ça, parce qu'en fait, je peux sortir dans le matin, acheter ma baguette, c'est bien, quoique
des fois c'est compliqué.
On me reconnaît, c'est très bizarre, mais voilà, on a une vie tranquille, on a eu une vie tranquille.
Bon, je propose qu'on écoute un morceau. Je sais pas si ce morceau s'est écoulé à 600 millions d'exemplaires, mais en tout cas, c'est un morceau qui a été extrêmement écouté et apprécié. Le morceau Feeling For You, un classique, on est obligé de l'écouter.
Ah bah oui,
bah on s'écoute. Cassius, Feeling For You. Morceau donc de Cassius s'appelle Feeling For You. Et oui, c'est un classique.
France Inter. Mehdi Maizi à la régulière.
Ce soir, je suis avec Boombaz, donc moitié de Cassius. Et avant qu'on poursuive la discussion, je propose de te faire écouter quelques morceaux sur lesquels vous avez travaillé. Et on en discute.
Ah ouais, avec plaisir.
Et tu dois les retrouver, mais tu dois les reconnaître très rapidement, notamment le premier morceau.
Avant, pour les gosses, les grands étaient des mythes. Regarde, maintenant c'est les parents qui flippent.
Donc c'est
Les temps changent, Claude M.C. Solar.
Ouais, sur Paradisiaque, qui est le troisième album solo de M.C. Solar. On en parlait en antenne, je te disais que moi j'adorais cet album. Qu'un moment particulier, toi tu travailles avec Solar depuis le début quasiment en tout cas.
Ouais, en tout cas 91. Ouais.
Voilà, exactement 91, donc c'est la période de Qui sème le vent récolte le tempo. Pros Combat, qui est le deuxième album, qui est un album qui est unanimement célébré à juste titre. Un album extraordinaire. Et cet album-là, qui est aussi un album où Solar est clairement une superstar. Et vous, vous produisez dessus. C'est aussi là où vous ramenez DJ Mehdi, paix à son âme, dans l'équation. Vrai. C'est aussi un album qui est, je trouve, qui change en termes de texture. Est-ce que tu te souviens de ce que vous essayez de créer à ce moment-là?
Ouais, parce que déjà, il y a le départ de Jimmy J.
Oui, qui était le producteur attitré
de Solar.
Qui était
quand même lui et Claude avaient monté le MC Solar, finalement. Créé ça ensemble avec toute la bande. Et puis, pour X raisons de la vie après, ça, on s'est retrouvés, Philippe et moi, derrière Claude. Et ça a été un peu difficile pour moi, la position de genre. Un peu comme les Stones, le groupe avait été monté, enfin pour ceux qui connaissent les Rolling Stones, par Brian Jones, et puis après il est mort, et puis en fait ils ont pris sa meuf, et puis en fait ils l'ont mis dehors, et puis c'est devenu le groupe des deux autres. Et donc j'avais un peu l'impression d'avoir volé un truc. Donc j'étais là, le cul entre deux chaises, et puis surtout c'était une sacrée pression tout d'un coup. Et donc du coup, à un moment en discutant avec Claude, moi je lui ai dit, écoute, je peux pas faire tout. Ou c'est peut-être lui, enfin on s'est dit, je veux pas tout faire tout seul, c'est trop compliqué. Donc c'est pour ça que j'avais dit, bon, déjà on peut commencer avec Philippe qui fait les instrus et qui a fait Les Temps Changent. Qui a fait l'instru Les Temps Changent, qui est le premier instru.
Qui est un morceau, vraiment un de mes morceaux préférés de la vie. Je pense parce que je l'ai écouté jeune à un moment, il me ramène dans un moment de ma vie. Enfin, j'adore ce morceau.
Puis l'alliance de la musique et des paroles.
Ouais, c'est.
Hyper.
Exactement.
Mon très
Même
bien
le
ensemble.
Clip était joli.
Et le
aussi.
Clip, tout, il y avait tout avec. Enfin, donc, voilà, c'est une bonne expérience. Mais ouais, ce qu'on voulait faire, c'est qu'à l'époque, on était vraiment. Enfin, moi, j'étais hyper fan de Defro avec Dre, Snoop et tous les 57 albums qu'ils faisaient par mois. Et le son qu'ils avaient, c'était l'arc. En fait, ils allaient dans un studio avec des brutes. Enfin, il n'y avait que des brutes qui bossaient. Donc, avec Philippe, on s'était dit, là, il faut qu'on ait aussi un son qui passe plus lourd, qui avance un peu. Et finalement, Paradisiaque, ça a été notre. Notre un peu formation pour Cassius aussi, en fait, et musicalement.
Un son plus chaud, qui est aussi celui qui a été
le vôtre. Un son avec un travail où là, on commençait à utiliser beaucoup plus de compresseurs déjà qu'on mettait des trucs, mais pour passer, pas de manière technique, tous les outboards, tous les effets qu'il y avait, on en louait, on en rajoutait. Les sampleurs avaient aussi un peu progressé, enfin tout avait progressé, il y avait le son, puis on l'a mixé à New York dans un, bon, je sais pas pourquoi on avait fait ça là-bas, mais on s'est barré à New York.
Les budgets des maisons de disques à l'époque étaient
aussi. Le budget de l'album, et on savait plus comment faire pour le dépenser. Donc
les années 90, hein, purée.
Les années 90, c'était fou pour ça. Et donc on est allé à New York, c'était génial, parce que là, enfin moi je suis pas complètement fan des États-Unis, mais pour le travail, c'est un peu la Terre Sainte, quoi.
Ouais. Morceau suivant.
Mob, ça me rend folle.
Donc ça, c'est la Funk Mob, donc c'est avant Cassius.
Ouais, ça c'est avant Cassius.
C'est des choses que moi j'ai découvert tard, mais que je trouve extrêmement intéressantes. Ça, c'est là où tu commences, toi, à faire de la musique en ton nom, finalement, en tout cas en tant qu'artiste.
Ouais, c'est né après le premier album de Claude, enfin après Pros Combat de Solar, où un jeune anglais m'a appelé via un pote. Bien, Philippe Ascoli, que tu avais entendu, déjà, qui était déjà là.
Donc c'est le patron de Mowax, c'est ça.
Ouais, c'est James Lavelle, qui doit avoir 19 ans à l'époque, qui monte ce label. Philippe connaissait le label, moi je connaissais vraiment rien, musique électronique, hors hip-hop.
Toi, t'es vraiment un mec, tu viens de la musique vraiment noire américaine là-bas, c'est ça.
Il y a que et ça qui m'intéresse, le reste, je suis complètement intégriste, le reste, je critique tout, je m'en fous de tout. Bon, j'aimais bien la pop quand même et tout ça, j'ai grandi là-dedans, ou la musique californienne pour les musiciens, mais là, à ce moment-là de ma vie, j'écoute que ça, et donc quand Philippe Sdar me dit ouais, bon, bah, que c'est incroyable, moi je suis là, j'écoute 2-3 trucs, je me dis c'est quoi cette musique de ouf, il n'y a pas de voix, en plus j'avais grandi dans l'école du single, parce que j'avais fait 3 ans dans une maison de disques, et pour moi une chanson devait avoir un couplet, un refrain, voire un pont, et ça devait être un tube, c'était la course au tube. Et en fait, quand j'ai ce jeune mec au téléphone, il me dit waouh, c'est trop bien les instrus que t'as fait dans le premier album, fais-moi ça, fais-m'en plein, tu m'envoies, et puis je sors.
Ouais, toi, c'est.
Pour moi, ça n'a aucun sens.
Ouais, ouais.
de sortir de la musique instrumentale.
Et c'est comme
voix.
Ça que tu que vous
et donc voilà, c'est comme ça. Et après, je demande à Philippe quand même en lui disant, écoute, parce que je lui envoie les, pour faire très court, je lui envoie les morceaux qui font 3 minutes. Et là, il me dit, mais c'est des intros, tes trucs. Il faut que ça soit plus long. Je me dis, tout seul, veux jamais y arriver. Je dis à Philippe, bah viens. Et puis c'est l'occasion qu'on se renferme au studio, qu'on fasse peut-être de la musique ensemble, ce qu'on n'avait jamais fait, parce qu'avec Solar, moi, j'étais coproducteur et des fois co-compositeur. Philippe était ingénieur du son, mixeur, et Jimmy Lee était producteur. Là, on se retrouvait tous les deux à faire ce qu'on voulait dans le studio. Notamment le morceau qu'on entend là, qui est un morceau de Philippe au départ,
okay.
Où je lui avais dit, fais-moi un truc de ta culture DJ House, mais qui ne soit pas trop rapide, parce qu'il était dans la techno hyper rapide. Je lui ai dit qu'il soit une sorte de fusion.
Sur lequel on pourrait presque rapper, en fait.
Sur lequel on pourrait presque rapper.
Ouais. Alors, morceau suivant, celui-ci, je l'aime beaucoup. Est-ce que tu te souviens de ce morceau?
Ah ouais, celui-là c'est un de mes préférés.
Comment il s'appelle?
Le New School intro.
Exactement. Ouais,
qui au
ouais.
départ était un remix d'une chanson de mon frère de son
Sinclair.
Premier album, Sinclair, qui s'appelle Tranquille. Et ce sample, ça faisait... Bon, c'est encore Ascoli qui m'avait fait découvrir ça d'ailleurs à l'époque.
Okay. Donc Philippe Ascoli,
pour Philippe Ascoli.
Qui était quelqu'un qui travaillait en maison de disque
ouais,
à l'époque.
Qui était en maison de disque à Montréal.
Un
directeur artistique qui m'a fait découvrir beaucoup de choses en funk notamment. Et donc ça, j'avais découvert Ramp et Roy Ayers. Il y a deux versions, il y a une Roy Ayers, il y a une version de Ramp. Et j'avais pas réussi à le sampler avec Solar, je sais pas, je me rappelle pas bien du pourquoi. À ce moment-là, bah quoi que c'est là, on est en 94, donc en j'ai fait qu'un album à ce moment-là. Oui. Et là, on est en plein pros combat, il me semble, à ce moment-là. Ou après, je sais, j'ai du mal à me rappeler. Et c'est. Et les Sage-Po qu'on avait rencontrés sur pros combat et tout.
On était un groupe de
les Sage-Po de la rue.
Qui était proche,
pardon,
que... Non, mais oui, qui était proche de Solar, qui était présent
proche
sur pros combat.
Qui était présent. Et justement, on avait fait 2-3 featurings sur pros combat, et avec Philippe, on est devenu fou. On est dit, putain, ces mecs ont des voix de dingue, on s'entendait hyper bien.
Ouais.
J'étais hyper pote aussi avec Ménélique. Et à un moment, donc j'habitais avec mon frère à cette époque-là. Et donc je commence un remix avec le Everybody Loves the Sunshine. Maintenant, je peux le dire, on s'en fout. Et le,
oui.
la prescription. Et mon frère a fait des Rhodes par-dessus, parce qu'il joue bien. Donc on l'a fait tout un merdier, qu'après j'ai retravaillé, etc. Et après, tout d'un coup, je dis, tu sais quoi, je vais demander j'ai des potes, je vais leur demander s'ils veulent pas rapper dessus. Et on fait un remix, toi et des rappeurs, ça serait, c'est trop bien, c'est pas fait à ce moment-là. C'est pas fait du
c'est
tout
pas
à
commun
l'époque.
À l'époque
non,
d'avoir un
commun.
Chanteur qui n'a rien à voir avec le rap a priori et des rappeurs.
Non, et les trois Sage-Po sont en plein dans leur album, il n'est pas encore sorti, donc j'espérais juste que Jimmy James fasse pas la gueule, que je chante un truc avec eux avant que ça sorte, mais bon, ils étaient c'était un peu la famille quand même.
Oui.
Tout ça, donc ça s'est bien passé. Et voilà, gros succès d'estime, en tout cas à l'époque avec ça, c'était trop
et
bien.
Et ce couplet de Danny Dan, « Touche pas à Ménélique ou je te patrifie à casse ». Voilà.
Ça
aussi, c'est les années 90.
Ouais,
Boom Bass est avec nous. Et alors, on l'a dit, l'actualité, bien sûr, ce sont ces trois dates dont on a parlé en début d'émission, mais aussi, bien sûr, la sortie d'un morceau.
Ouais.
Denson, donc, qui sort aujourd'hui même. Qu'est-ce qui t'a donné envie donc de sortir ce morceau, qui est un morceau qui a été fait en 2018, si je ne dis pas de bêtises, donc l'année du décès de Philippe, un morceau
lequel
on entend Philippe. Ouais.
Je pense qu'on l'a fait pendant le dernier album Dreams, qu'on a commencé 2017. En fait, on prenait quand même toujours un peu de temps pour faire nos disques. Et donc, comme il est sorti en 2019, ouais, ça doit être ça. J'ai pas réussi à retrouver là, mais peu importe, c'est vraiment de cette époque-là, je reconnais tout.
Okay.
Et je me rappelle bien de la séance où un jour Philippe est arrivé avec, juste il y avait, je pense, un beat et la guitare, enfin, vous allez découvrir son morceau.
On va l'écouter.
Je chante pas bien. Et puis, je lui dis, waouh, c'est trop bien, viens, on fait un truc. On a passé un jour ou deux à bosser dessus. Il y avait Mathieu Chédid qui venait faire des guitares, qui a fait toutes nos guitares sur nos morceaux et qui joue dessus aussi. Et donc, bref, et après, on l'a pas utilisé, je sais plus la raison. J'ai plus la raison, mais il traînait. Et Philippe avait fait une sorte de prémix chez lui, dans son ordi. Et par chance incroyable, j'avais la session. Le temps passe. Bon, et puis au bout d'un moment, je me suis dit, j'aimerais bien aussi, au moment du live et tout, je me suis dit, j'aimerais bien avoir aussi.
Avoir quelque chose de.
Ouais, une sortie musicale pour célébrer ça. Mais il fallait que ce soit un morceau qu'on ait fait tous les deux. 99% au moins ensemble, comme on l'a toujours fait. J'avais pas envie d'avoir un truc dans lequel je récupérais des bouts et que je fasse tout seul dans mon coin un truc. Là, ça n'avait aucun sens. Et je trouvais pas. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais il y a ça. Et donc, et par chance, j'avais la session, parce qu'en plus, avec nos disques durs, je te dis pas, moi, j'ai perdu des tomes de trucs. Philippe, je sais pas où c'est ces trucs. Donc voilà, c'est comme ça. Et là, je l'avais. Donc, sauf que la version faisait 12 minutes, donc il a fallu que j'en fasse un 3 minutes. Et après, on l'a mixé avec Pierrick Devin, qui est un producteur français, ingénieur du son et musicien, avec qui on avait joué en 2007, qui était notre guitariste en 2007 sur notre tournée en groupe. Donc il y avait un lien aussi avec Cassius. Et Philippe le chante, et je trouvais ça trop bien que c'était... Là, je retrouvais en fait... Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, c'était un morceau qui aurait peut-être pu être un peu la couleur d'un album qu'on aurait fait cette année.
Ok.
Quand je l'écoute.
D'accord. Ouais, est-ce que... C'est un peu obligé de poser la question, mais est-ce que, du coup, tu peux imaginer de ressortir de la musique sous le nom de Cassius sans Philippe, ou pour toi, c'est impossible? Non, et c'est ça, un peu le dernier morceau potentiel.
Je pense que c'est le dernier potentiel. Après, je peux faire... J'ai retrouvé des DAT avec des tonnes d'instrus, bordel,
oui, etc.
Ouais. Je pourrais faire une sorte de page, même un site web, un blog. Je pourrais faire un blog avec plein de trucs à écouter, mais je veux dire, je peux pas... Ça, mais par contre, de faire de la nouvelle musique sans lui... Pour Cassius, ça, pour moi, n'a pas de sens. C'est même pas une question d'impossibilité psychologique.
De principe, c'est juste pas possible.
C'est juste que ça n'a pas de sens. Ouais. Quand je me suis mis à réécouter, en fait, et en cherchant les trucs, j'ai vraiment, avec plus de tristesse, plus de colère, avec tout ça, je me suis dit, waouh, mais en fait, c'était la première fois que je voyais, enfin, que j'écoutais plutôt notre façon de travailler, puisque sachant qu'elle n'aurait plus lieu, tu l'analyses d'une autre manière. Mm. Et j'ai réalisé, en fait, ce que faisait chacun de nous et l'influence de chacun dans notre musique. Et en fait, il faut que si je fais de la nouvelle musique, je rencontre des nouvelles personnes et je fais un nouveau truc. Mais c'est clos maintenant.
Bon, je propose en tout cas qu'on écoute ce morceau. On a la chance d'avoir donc un nouveau morceau. C'est comme ça qu'il faut le prendre, comme une célébration.
C'est un nouveau morceau,
chance,
parce que vraiment, et c'était vraiment une chance de le retrouver. Je suis hyper content, parce que c'est pas... Je voulais pas arriver avec un fond de tiroir où il y a juste 4 minutes de bouti, bouti, bouti.
Ouais.
Ça n'avait pas de sens, on sort tous les deux jours. Là
c'est une vraie
truc
chanson.
C'est une chanson, c'est lié à l'histoire du club, il y a toute notre façon de faire. Moi, je fais des chœurs. Il y a Matt Chedid qui joue, c'est le bordel. Enfin voilà, c'est notre truc. Quoi.
On écoute ça, Cassius avec Denson.
The door.
Denson, donc nouveau morceau de Cassius. Quel plaisir de vous réentendre.
France Inter, Mehdi Maizi, à la régulière.
Alors, Boombas, on l'a un petit peu dit, mais je pense que tu fais partie des personnes qui, peut-être, font partie de celles qui créent le mieux le lien, en tout cas, entre le rap et musique électronique. Tu viens du rap, tu es une des figures de la musique électronique en France. Et donc, j'ai commencé à réfléchir, à me dire, oui, j'aimerais bien faire un peu un top des meilleures collaborations entre rap et musique électronique. Et puis après, je me suis dit, non, je vais plutôt parler d'un album qui me semble être, tu me diras si tu es d'accord,
ouais,
presque là, une des meilleures, un des meilleurs exemples en tout cas, de fusion entre rap et musique électronique. Et c'est un album qui sort en 2013. Kanye West sort Yeezus.
Album... J'allais le dire.
Ah ben voilà, bon, t'es d'accord, c'est bon.
Je suis d'accord avec toi.
Qui est un album qui est court, brutal, sans compromis. Un disque qui, dès les premières secondes de On Sight, donne l'impression d'entrer dans une usine en feu. Pas de mélodie accueillante, pas de refrain sucré, juste des synthés détraqués, des kicks industriels. Et cette impression que le rap vient de faire un pas dans le vide. On sight, on sight. How much do I not give a fuck? Let me show you right now for you give it up. How much do I not give a fuck? Let me show you right now for you give it up. Donc, Yeezus, c'est un cri d'ego, de colère, de liberté, mais surtout un disque qui mélange le rap et la musique électronique comme personne ne l'avait fait avant. Un album produit main dans la main avec des figures de la scène électro-mondiale, dont deux français que Kanye admirait depuis longtemps, les Daft Punk. Donc, à l'origine de Yeezus, il y a une envie de chaos. Kanye avait sorti My Beautiful Dark Twisted Fantasy en 2010, un disque orchestral maximaliste, peut-être vu comme le disque parfait de la décennie passée. Et là, il veut faire l'inverse, tout casser, tout salir. Et pour cela, il s'entoure de producteurs qui ne viennent pas du rap et Daft Punk. Donc Hudson Mohawk, Arca, Brodinski, Geza Fulstein, autant de gens qui viennent du club, de la techno, du bruit, de la distorsion. Les Daft Punk participent à plusieurs morceaux, des morceaux rythmiques taillés comme des marteaux-piqueurs où la ligne entre hip-hop et électro disparaît complètement. For my theme song, black. My leather black jeans on, black. My by any means on, part and I'm getting my scream on, into the kingdom, black. But watch what you bring home, you see a black man with a white woman at the top floor, they gon' come to kill King Kong, middle America packed in, black. Can't see me in my black skin, black. Number one question they asking, fucking big question you asking. Et donc derrière ce son industriel, il y a une idée, faire du rap une expérience physique presque violente. Brodinski et Geza Fulstein, figure donc de la techno française la plus sombre, apportent cette énergie froide, métallique, presque berlinoise. On entend leur influence sur le morceau Send It Up. This the crazy shit in the club. Sis in the club. It's so packed I might ride around on my bodyguard back like Prince in the club. She said, can you get my friends in the club? I said, can you get my Benz in the club? If not, treat your friends like my Benz. Park their ass outside till the evening end. When I go raw, I like to leave it in. When I wake up, I like to go again. When I go to work. En 2013, le rap mainstream est encore dominé par les productions luxueuses, les refrains chantés, les albums calibrés. Kanye, lui, choisit la dissonance. Il met le chaos au centre. Ce qui frappe, c'est la radicalité. Pas d'arrangement superflu, pas de storytelling classique, juste des émotions à vif. Il passe de la colère, comme sur Black Skinhead, à la mégalomanie, sur I Am A God, jusqu'à des morceaux d'amour, comme Bantu. Tout l'album tient dans cette tension entre l'humain et la machine, entre la rage et la foi, entre la chair et le métal. Et c'est ce mélange-là qui le rend inclassable. I am a god. Hurry up with my damn massage. Hurry up with my damn menage. Get the Porsche out the damn garage. I am a god. Even though I'm a man of God. My whole life in the hand of God. So y'all better quit playing with God. Soon as they like you, make them unlike you. This kissing people ass is so unlike you. 10 ans plus tard, Yeezus reste un tournant. C'est l'album qui a ouvert la porte à toute une génération de rappeurs et producteurs prêts à brouiller les frontières. Travis Scott, Death Grip, JPEG Mafia ou encore la scène française comme Laylo. Y'a l'éléphant dans la maison. C'est toujours plus fort qu'il a raison. J'éteins toutes les télévisions. Faut qu'une représentation, j'suis en mission. Ils ont chaussé pas la saison. Dans la cabine, pas de raison. Fais pas trop des comparaisons. J'ramène le flow, c'est la dernière livraison. Ça, c'est un extrait de Megatron de Halo qui est clairement un hommage, une référence à Black Skinhead de Kanye. Alors, on peut penser ce qu'on veut de Kanye aujourd'hui, hein, et on peut en penser des mauvaises choses, c'est justifié, mais en tant qu'artiste, c'est quand même difficile de ne pas lui enlever cette forme d'importance et d'influence sur la musique aujourd'hui. Et moi, je change souvent d'album préféré de Kanye. Je sais pas si Jesus est mon préféré, mais c'est peut-être celui qui est le plus présent aujourd'hui dans la musique actuelle. T'avais l'air d'accord avec ça. Qu'est-ce que tu penses, de cet album-là?
Alors, à l'époque...
Tu l'as pas aimé. Moi, le premier écoute, j'ai détesté.
J'ai pas... Puis j'étais hyper jaloux de mes potes qui bossaient dessus et tout. Pourquoi on n'est pas dessus et tout.
Parce que vous êtes peut-être moins sombre.
Ouais, bah ouais.
Vous, il y a quelque chose de plus lumineux quand dans
tu,
votre musique.
Avant de comprendre le truc, tu vois, toi, on peut... Puis à ce moment-là, j'étais dans un mood particulier, mais j'étais un peu jaloux. Mais dans le bon sens, tu vois. Mais par contre, moi, Kanye West, depuis son premier album, je suis assez... Alors oui, bon... Là aujourd'hui, c'est pas si, mais c'est pas si. Enfin bon, moi je
garde la musique.
Je garde la musique. Même Pablo, enfin toi, il y a des disques comme ça.
Pablo est un disque incroyable.
Start et en fait, j'ai eu la chance. Enfin, on a eu la chance, mais là, ben, c'est, dans mon cas, j'ai eu la chance de le rencontrer au moment où ils ont samplé pour le
Wild
of Run I Love You So. Il est venu à Paris. Je crois que c'était pendant une Fashion Week, je sais plus quoi. Pedro nous appelle. Bon bref, on se retrouve et on se retrouve ensuite.
C'est toujours Pedro qui appelle dans ce genre de situation.
Pedro est toujours partout.
c'est lui
le boss. Et il nous dit, il y a Kanye West qui est là. Il veut sampler I Love You So. Venez les gars. Moi j'étais en slip chez moi. Je me dis mais qu'est-ce qu'il raconte, etc. Puis bon, on a fini par y aller. Et donc il était vraiment là. Donc bref, on s'est retrouvé au studio et là j'ai vu que c'était un génie. Après il a ses travers, il dit des trucs à la con, etc. Plus tard, bien plus tard. Mais ça reste un vrai génie. Après j'ai vu le film, son docu.
Le documentaire qui est disponible sur Netflix, le premier épisode surtout est phénoménal.
Franchement, c'est la chute de sur fan. Je le trouve complètement fou, mais dans le bon sens. Et ça s'entend en fait finalement dans sa musique et dans ses directions et dans ses choix. Et c'est vrai que si t'es vraiment un mec ou une femme toute straight et chiant, ce que tu vas faire, c'est chiant. On n'y peut rien.
Oui. Il y a quelque chose, tu penses, chez les grands génies, il faut qu'il y ait quelque chose d'un petit peu
ouais,
à côté.
Il y a à côté les travers. Donc, là, c'est chiant, mais n'empêche que ces disques sont complètement fous.
Ouais, complètement. C'est vrai.
Enfin, au niveau, et donc, par rapport à celui-là, aujourd'hui, c'est incroyable. C'est ça, l'avance que. En fait, c'est fait partie de ces visionnaires. Qui sont très très ouverts. C'est ce que j'ai vu, quand je l'ai vu dans la cabine, c'est que c'était comme un fou mettre le volume à fond pour essayer de le pousser encore plus fort. On saignait les oreilles en écoutant l'album What the Throne. Et lui, il était là, il s'excitait sur les trucs, il nous citait des millions de références que j'arrivais pas à voir. Mais donc voilà, c'était je me suis dit, le mec est un fou, dangereux dans le bon sens de musique, ça faisait vraiment hyper plaisir. Et en fait, tu te rends compte que quand tu consacres ta vie comme ça et que t'es doué, en fait, ça marche. Donc, je veux dire, il a pas acheté ses places. On kiffe depuis le premier.
C'est vrai.
Qu'il a fait avec Jay-Z, c'est fou. Enfin,
le premier qui était Collège Dropout en 2004, si je ne dis pas de bêtises, c'est
qu'il y a. Tu le vois avec une MPC, moi je l'avais, cette MPC et tout. Tu dis waouh, d'accord. Il y a des mecs qui sont, sont faits pour ça, quoi.
Boom Bass est notre invité ce soir dans La Régulière. J'ai quelques questions pour toi, pour connaître davantage tes goûts musicaux. Quel est le premier morceau qui t'a donné envie de faire de la musique? Quelque chose que t'as entendu, tu t'es dit, moi aussi je veux en être, moi aussi je veux toucher à ça.
Alors, je pense que celui qui vraiment... Parce que j'ai déjà eu... Je pense que c'est dans l'album Diana, de Diana Ross, qui est produit par Nile Rodgers et Bernard Parchic.
Que vous samplez d'ailleurs sur Paradisiaque, sur le morceau...
Non, c'est pas dans cet album-là, mais...
Sur Paradisiaque, c'est pas sûr, autant pour moi. Alors.
Non, mais c'est pas grave, mais en tout cas, c'était Diana Ross. Mais par contre, à ce moment-là, moi, je commençais la batterie, je touchais un peu les instruments, parce que mon père est ingénieur du son, producteur, j'avais des trucs chez moi qu'il amenait volontairement, je pense, parce qu'il voyait que j'aimais les toucher, et notamment la basse, j'avais une sorte de passion. Bon, par contre, essayer de jouer comme Bernard Edwards, là, je pleurais. Mais bon, en tout cas, le premier, c'est... Voilà. Et je pense que c'est pas Upside Down qui est dedans. C'est My Old Piano.
OK.
Je sais pas pourquoi.
Ouais.
Mais il me mettait des frissons, ce morceau de fou. Et donc, j'écoutais tout ça. Je découvrais aussi le funk sur une radio qui s'appelait Radio 7. Ou je sais plus très bien. Vraiment, peu importe. J'écouvrais tout ça. Et en fait, ça me faisait une émotion. Je me suis dit, je veux... tu vois, comme un môme qui doit avoir du foot et qui dit je veux avoir un ballon sur mes pieds et mettre des buts. C'était pas ça, c'était je veux être dans un studio parce que je connaissais le lieu.
Oui, en plus, tu connaissais le lieu via ton papa,
Je veux être dans un studio avec Bernard Edwards, Nile Rodgers, Michael Jackson, Quincy Jones et faire ça.
le morceau qui te rappelle tes premières nuits en club. Le club, c'est important pour votre génération, bien sûr. Et encore pour toi, tu continues de jouer en club. Tes premières nuits, c'était quoi, là, le morceau?
Je pense que c'est Bring You Up de Roman Anthony,
okay.
que je cite à la fin de mon livre. En fait, qui est, c'est Philippe m'a fait découvrir ça et on jouait. Et en fait, ça me rappelle ce morceau, parce qu'il était de la house, mais chanté un peu à la Prince, si on peut dire ce genre de choses, mais produit avec un son, on ne sait pas s'il était passé par une cassette, après un truc qui a une sorte de son infâme, mais qui est incroyable. Et quand on le jouait, et donc j'ai des souvenirs de ça à New York, etc., et de où je me suis dit, waouh, un peu comme avec Diana Ross, où je me suis dit, waouh, mais c'est pas mal cette vie, parce que là j'étais déjà plus âgé, j'avais pas 14 ans, j'en avais presque 30, et je me suis dit, mais ça, c'est fabuleux.
Donc, le morceau idéal à jouer en peak time, donc quand t'as un DJ set, le moment où les... Genre pas vers 2h du matin, quelque chose comme ça, quand la salle est bondée. Aujourd'hui, au moment où on se parle, là, en 2025, c'est quoi le morceau, selon toi, qui fait le plus d'effet?
Alors ça, je suis hyper mauvais.
Parce que tu es
pas en DJ, mais en... parce que le problème, là, c'est qu'aujourd'hui, c'est génial, on a des disques durs avec... moi, je sais pas, j'ai 11 000 morceaux dessus, c'est
exactement.
Génial. Et du coup, je ne connais plus un seul nom de ce que je joue.
Ça, c'est un... Alors, pour le coup, je comprends que du coup, les questions sont compliquées, mais tu abordes un sujet intéressant. C'est que oui, effectivement, aujourd'hui, avant, tu ramenais tes vinyles pour mixer, etc. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin.
Non,
Dieu merci, j'imagine, c'est beaucoup plus simple. Mais effectivement, tu sais pas forcément... Enfin, tu sais ce que tu joues, mais tu ne connais pas forcément les titres.
Non,
on n'a plus la même culture.
On n'a plus cette même culture, en fait. Et donc, tu as ton écran de platine, là, il y a 80... Tu te fais un sac à disques, je m'appelle, mais en sélection de 80 morceaux. Tout d'un coup, tu sais que le 22e, ah ouais, il va bien que celui-là, en fait, les noms, tu les zappes. C'est, même s'il y a les micro-pochettes avec un nom, c'est c'est très, très dommage.
Et je pense que c'est pareil pour les films, aujourd'hui, avec les plateformes. Moi, parfois, je regarde des films, je ne sais pas comment ils s'appellent, ce qui aurait été complètement impossible avant. Je savais qui réalisait, qui jouait dedans.
C'est ça.
Aujourd'hui, on est abreuvé.
Tu dis, c'est quoi? C'est lui. Voilà. Et donc, mais c'est. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'il sort quand même. Il sort des quantités phénoménales de musique, mais il y a toujours, je pense, pour chacun des DJ et DJ qu'il y a, c'est qu'on trouve toujours de quoi jouer. Et et ce qui est très bizarre, c'est que, en fait, c'est pas toujours les mêmes morceaux qui font prendre.
Selon la salle.
Selon les salles, c'est assez. À partir du moment où tu joues pas des anthèmes et des tubes.
Oui.
Récurrent, etc. C'est très très surprenant. Il y a des fois des morceaux qui chez toi tu dis ouais bon ça je l'emmène et tout. Puis en fait c'est celui-là qui fait péter et toi tu dis ouh alors ça là j'ai mon truc et tu le mets et tout le monde va au bar. Donc tu dis ouais qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment intéressant.
Je propose qu'on écoute un morceau qui ne sera sûrement pas joué en peak time mais qui est un très beau morceau de rap français. C'est de Là d'où tu viens. C'est un morceau qui est sorti récemment de Isha et Limsa. Ça s'appelle Fin de ce monde. C'est extrait de leur prochain album commun Bitume Caviar Volume 2 qui devrait arriver prochainement, on l'espère. Isha et Limsa, Fin de ce monde.
Ils tiennent des propos dénigrants sur nos frères, sur les migrants. Les rois du monde, ils sont délirants. Il y en a même un qui veut bombarder l'Iran. Ils vivent comme des rois, des ducs et des vicomtes. Ils veulent nous faire croire que toutes les vies comptent. La police ne nous aime pas, donc nous l'évitons. On est des rescapés, on est sous, je le dis dans chaque morceau. Et là, tu vas pas y échapper. Je suis là depuis l'époque du 113 clan. Wesh Rimka, wesh AP. Et là, je veux qu'on me laisse rapper. Je suis content quand dans mon frigo y'a du shit. Je suis content quand dans mon frigo y'a du lait. J'ai fait des faux pas, faut pas m'aduler. Si peu d'essence, tellement de choses à brûler. Elle veut rentrer dans ma tête comme Babidi. Quand y'a du bon bédo et de la bébida, je me sens comme Tristan Cara et Pépita. Le talent ne suffit pas comme l'a dit Curdy. J'ai quitté Alice Cordier pour Annie Cordy. Nique ceux qui nous voient comme des animaux, qui viennent de Paname ou de la Picardie. Quand je les vois jeter tous mes rêves du cargo. Je ressens une maxi colère de la tachycardie. Imagine Maxi Lopez qui tachycardie. Quand je guette les infos, moi il me faut 10 secondes pour maudire ce monde. Quand je guette les infos, moi il me faut 20 secondes pour souhaiter la fin de ce monde.
Walim, ça, y'a toi qui sais. Pourquoi je parle pas ces derniers temps? Pourquoi j'ai mal ces derniers temps? Que j'écris moins ces derniers temps? J'avais plus d'inspi mais merci Seigneur, t'as envoyé quelqu'un qui m'a brisé le cœur. Trois Isha heureux, ça rappe beaucoup moins bien qu'un Isha qui pleure. Et deux Isha qui pleurent, c'est beaucoup trop chaud, ça ramène tout Brooklyn comme quand B.I.G. meurt. Encerclé par des jeans mélancoliques qui m'encouragent à fuir et rester dans mon lit. Je croyais que c'était à cause du pilon moi, mais j'ai arrêté de pédaler depuis. Je retrouve toujours de la moisissure chaque fois que je découpe une tranche de vie. J'ai pas envie de parler business, pas envie de parler affaires. Tu vois pas qu'on est les damnés de la terre. Un petit Africain attaché au dos de sa mère avec un wax. C'est plus confortable quand les tantines ont grossi. J'avais la même pose que Valentino Rossi.
Quand je guette les infos, moi il me faut 10 secondes pour maudire ce monde. Hey. Quand je guette les infos, moi il me faut 20 secondes pour souhaiter la fin de ce monde.
C'était Isha et Limsa, fin de ce monde, en attendant donc leur album Bitume Caviar, volume 2.
Mehdi Maizi sur France Inter.
Boumbas, tu es avec nous ce soir et c'est l'heure des recommandations. J'en ai demandé, tu m'en as envoyé et j'avoue que notamment les recommandations musicales m'ont réjoui. Car tu as notamment parlé d'un album que j'écoute en boucle en ce moment, c'est Extasia de Ino Casablanca.
Celui qui parle mal, je lui fais des pleurs, vu qu'on peut pas. Comptez sur les bleus. Quitte-les, non. Pas besoin de te cacher. Derrière tes tresses au ras du sol. Je serai là dans tous les cas, ma bébé. Quitte-les, non.
Donc, Ino, c'est un artiste d'origine marocaine qui mélange plusieurs choses dans sa musique, du rail, du rap évidemment, même du compas comme c'est le cas sur ce morceau. Donc ça prouve déjà que t'es tout le temps, toujours à l'écoute effectivement de tout ce qui se passe notamment sur la scène rap. Qu'est-ce qui te plaît autant dans cette proposition?
En fait ça c'est une copine qui m'a tout manageuse qui m'a fait découvrir ça il y a la semaine dernière.
Ok.
En me disant, ouais, Ino Casa, si je devais jouer, je jouerais que ça et tout. Et je dis, Ino Casa, tu vois, bon, je sais quoi, etc.
Ouais,
je
savais pas.
Et donc, je me monte, je vais, j'écoute. Donc, déjà, je kiffe trop le côté, genre, de Bad Bunny français, mais c'est, ouais. Ce serait dommage de. C'est juste pour faire une référence, c'est, ça n'a rien à voir, mais il y a quand même un peu cet esprit où
ouais,
je
de mélanger.
De mélange ouais. Et de. Et après, je tombe sur. Alors, quand, évidemment, Insta, dès que tu dis un nom, après, il te balance tout, toute sa carrière. Et donc, là, je l'ai vu parler. Donc je l'ai kiffé et je l'ai surtout aimé quand il parlait de des batteries, lui, il appelle ça les ouais. Batteries ou les beats, etc. En disant c'est hyper important la façon dont on la tourne. Et en fait, effectivement, dans l'album, il y a un sens du beat.
Ouais, ouais, tout à fait.
Et moi, ça m'a toujours parlé, ça.
Et puis il y a aussi quelque chose dans sa musique de mélange, en fait.
Ouais,
qui voilà. Est aussi quelque chose qui, du moment où tu te retrouves c'est quand on voit ta musique
ça.
Et ce que tu as produit.
Ouais. Ce mélange, et je trouve ça hyper fin et lui, je le trouve hyper sympathique de ce que j'ai pu apercevoir.
Ouais.
Et voilà, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas eu un coup. Enfin, en fait, ça fait pas longtemps que je me remets un peu à écouter ce qui sort maintenant.
Ok. Il y a des périodes comme ça, peut-être des moments où t'as plus besoin d'écouter des,
ouais,
des standards.
Ça te fait... ce que j'appelle les morts. j'ai écouté trop les artistes morts là. Maintenant, j'ai besoin d'entendre des vivants qui sont là aujourd'hui. Et puis, je suis passé par plein de phases. J'ai eu 2 ans de... Merde, j'ai carrément oublié le nom de cette musique, mais d'ambiante.
Ouais.
Post-confinement, tout ça, là, j'étais dans des trucs où là, c'était. J'étais parti vraiment loin. Et en fait, j'ai réalisé que, quand même, par rapport à la passion que j'ai de la musique et l'importance d'être actuel, il fallait quand même que je me mette à écouter ce qu'écoute la génération ouais. Qui était la mienne il y a 30 piges aujourd'hui.
Alors, t'as donné une autre recommandation. C'est une artiste qui est partout, mais c'est toujours bien d'en parler, c'est Théodora.
Quand je...
C'est le morceau Un meilleur nous présent sur le projet Bad Boy Love Story. J'aurais pu mettre Congolais sous BBL, bien sûr, qui est un morceau extraordinaire, mais je voulais
bien
changer
sûr.
Un petit peu. Mais elle aussi, finalement, c'est un peu comme Ino. Ils font pas du tout la même musique, mais c'est aussi une artiste qui est une forme d'hybridation. Il y a plein de choses différentes. C'est rappeuse, mais ce serait réducteur de dire que c'est uniquement une rappeuse. C'est comme Ino, quoi. C'est des artistes de leur époque, quoi, qui mélangent plein de choses très différentes.
Alors là, je suis hyper, hyper fan. Et en fait, je sais pas comment je la suivais avant que ça marche sur Insta. Okay. Et puis un jour, j'ai un message. En fait, on suivait un message où je comprends pas la, la langue. Enfin, je me dis merde, c'est quelqu'un. Je me dis c'est hyper jeune qui m'écrit machin et tout. Et je vois que c'est elle qui me parle de musique. Bon, j'ai jamais réussi à faire un track parce qu'à ce moment-là, j'étais pas dedans. Mais donc c'est comme ça que j'ai découvert. sa musique et
c'est-à-dire
elle
que parce que t'étais pas dedans, on est peut-être passé à côté d'un morceau Boomba Théodora, c'est ça que t'es en train de nous dire.
Ouais mais bon, rien n'est définitif.
Oui, bien sûr.
On est sûr de rien.
C'est vrai.
Enfin, elle, en tout cas, elle a encore le temps.
Oui, donc, toi aussi.
Moi, en me speedant un peu, je l'ai. Et par contre, ce qui est génial, c'est qu'à ce moment-là, ça commençait un peu à prendre et j'ai vu l'incroyable succès.
Ouais.
Prendre, et moi j'adore moi je suis un fan du succès malgré tout, enfin les histoires, aussi bien celles des autres que la mienne, mais surtout celles des autres, et là de voir ça et comment c'est géré, comment elle a géré, je suis très très fan et impressionné, donc voilà, je voulais mettre ces deux disques.
Et d'ailleurs, elle est le morceau numéro 1 du pays en ce moment, c'est un featuring entre elle et DC's, donc elle est...
Ah, qui est carrément hyper bien.
Qui est carrément hyper bien, exactement, absolument. Mais, on parle, c'est bien beau tout ça, mais c'est l'heure de la question qui tue.
Ah.
Boombas, on parle de French Touch, voilà, on en parle beaucoup. Quel est pour toi le meilleur album estampillé French Touch?
Bah, il y a pas, en vrai.
Parce que c'est forcément.
Ça fait un peu chier parce que.
Parce que c'est toujours eux.
30 piges qui m'emmerdent avec ça. Mais il faut être honnête, non, je plaisante, hein. Mais
bien sûr.
Être honnête, je pense que. Et en fait, j'ai un peu de mal. Moi, je pense que c'est parce que je l'ai vécu, mais Discovery.
Quel deuxième album
le deuxième album des Daft Punk.
Oui, parce qu'on parlait Daft Punk, évidemment.
Voilà, on parlait Daft Punk. Mais là, on réécoute. Bon, alors, donc, bref, pour moi, ce serait History, mais celui qui ressort, la télévision.
Human After All,
Human After All, là. En fait, à l'époque, j'avais pas aimé.
Il était mal aimé à l'époque. C'est quelque chose. On est passé à côté.
Ouais. Et t'écoutes maintenant, tu te dis « Waouh, mais c'est fou !» C'est-à-dire qu'à l'époque, on appelait ça la maximale avec Philippe, cette musique maximale, cette espèce de hard rock synthétique. Et en fait, tout le monde a pompé, mais enfin, c'est comme d'hab, en fait. Cet album-là a été une inspiration à une échelle, et c'est pas... C'est la rançon du fait que quand ça marche, on va pas en permanence à chaque disque te dire que ça influence, c'est un peu
bien
comme
sûr.
Kanye, où normalement on passe à côté de chefs-d'œuvre. Mais c'est un disque incroyable. Mais bon, pour perso, je dirais Discovery. Parce que la première fois que je l'ai entendu, je me rappelle très 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 bien de ce moment.
Ouais.
J'ai envie de pleurer, quoi.
À ce point-là.
Bah ouais, parce que là, on était beaucoup plus jeunes, on avait moins d'expérience, on faisait notre deuxième album. Et franchement, avec Philippe, on était au studio, on écoutait, on est rentré, on se disait rien, on disait « Oh, il fait beau, t'as vu, tiens, y a les oiseaux.
» On parle d'autre chose.
C'était genre, parce qu'il y avait, c'était vrai, il y avait tout, en fait, parce qu'il nous avait raconté le concept et toute l'histoire. Après, on s'était retrouvés, on traînait pas mal à ce moment-là. Et quand on a vu tout le truc, on s'est dit « Waouh !»
Ouais.
Du coup, on a mis 3 ans à faire notre album. Non, bon. Mais voilà, ce serait Discovery.
Discovery. Ouais. Boomba, c'était un plaisir de t'avoir aujourd'hui.
Merci, Mehdi.
Vraiment un plaisir. On rappelle donc que le morceau Denson de Cassius est disponible et qu'il y aura 3 dates. Le 10 avril au Webster Hall de New York, le 22 avril à Olympia à Paris et le 25 avril au Coco à Londres où tu joueras donc, enfin où Cassius jouera.
Ouais.
Et ça, c'est beau.
Ça va être beau.
Ça va être beau. Merci beaucoup en tout cas et merci aux personnes qui ont préparé l'émission, Alexia Lacour et Redouane Tella, une émission réalisée par Gaëtan Coy, la programmation musicale signée Jean-Baptiste Audibert. À la technique ce soir, c'était Laurent Baudouin et Mathias Alléon. Merci aux équipes web et vidéo. Demain, on se retrouvera pour parler d'une autre obsession de Martin Scorsese à l'occasion du documentaire qui lui est consacré sur Apple TV+. Pour découvrir ou redécouvrir nos émissions, abonnez-vous sur l'application Radio France.